Rencontre d'expatriés, lesfrançais.press, l'info des expats par les expats.
Pourquoi on se bat? C'est le titre de la nouvelle web-série réalisée par Camille Etienne et Solal Moisan, écrite par Camille Etienne, Solal Moisan et Géraldine Ohana avec la collaboration de Jade Verne. La série de 4 épisodes est diffusée depuis le 5 avril sur la plateforme francophone mondiale TV5 Monde Plus. Camille Etienne, 24 ans, activiste pour la justice climatique et sociale, se bat depuis plusieurs années pour sensibiliser le grand public à l'urgence climatique. La jeune femme est partie, caméra à l'épaule, filmer la source de son engagement, la fonte des glaces. Voyage qui l'a menée en Islande, en Belgique ou encore en Savoie. Elle est avec nous pour en parler. Camille, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis quand êtes-vous engagée dans ce combat?
Eh bien, j'ai l'impression d'être née, j'ai eu le privilège immense d'être née dans un endroit où tout était urgence climatique, dans le sens où j'ai vécu aux portes du parc national de la Vanoise, donc le plus vaste parc en France, c'est le plus ancien, et aux bords surtout des glaciers, dans une famille où les glaciers prenaient une place très importante, de par une famille d'alpinistes, tout simplement. Et donc, de par ce privilège immense de grandir dans un endroit où la nature est extrêmement présente, finalement, l'idée d'ensuite arriver à Paris, d'arriver dans des sphères de pouvoir, finalement, parce que je rentrais à Sciences Po Paris, je me suis rendu compte du décalage qu'on pouvait avoir et que ceux qui allaient précisément prendre ces décisions n'avaient pas forcément conscience dans leur chair que ces décisions allaient impacter une nature dont on faisait partie. Donc, c'est un peu comme ça, je dirais, qu'est né mon engagement. De par l'indignation aussi de voir que les décisions, par exemple, sur les fonds marins étaient décidées par des gens en costume dans des salles climatisées qui n'allaient jamais précisément sur le terrain et qui n'avaient pas conscience de toute la chaîne de conséquences irréversibles qu'ils pouvaient avoir sur des écosystèmes.
Mais vous avez un engagement qui est certes passionné, mais aussi passionnel dans ce qu'on a pu lire ou voir de ce que vous faisiez. Est-ce que vous avez conscience de ça?
Eh bien, ça me fait très plaisir. Je suis quelqu'un de très passionné, ça c'est sûr, et passionné des gens passionnés surtout. Donc si ça peut réussir à être transmis un petit peu, c'est le plus grand des cadeaux. Et c'est surtout ce qu'on a essayé de faire aussi en utilisant la vulnérabilité pour moi. Quand on dit des gens passionnés, c'est aussi des gens qui acceptent d'être vulnérables et de laisser tomber des conventions sociales, de laisser tomber des filtres qui nous empêchent. Donc en fait, c'est aussi ce qu'on a voulu faire, notamment en utilisant l'art dans mon combat. Donc en utilisant les mots, qui est mon moyen d'expression préféré, mais aussi la danse parfois, la musique, le cinéma, la fiction, c'est d'être capable d'aller toucher du côté de l'émotion aussi, de dire que tout ça ne nous affecte pas, ces chiffres, ces graphiques, ces annonces, ça ne nous affecte pas uniquement rationnellement. Nous sommes des êtres pensants, mais aussi des êtres dans un corps, et précisément puisque c'est notre corps qui est attaqué, alors ça bouleverse en nous des émotions qu'il faut être capable de laisser émerger dans l'espace collectif et public.
Alors justement, on est dans les émotions, on est dans la recherche par rapport à son corps et à laisser partir un petit peu ce qu'on pense. Vous avez déclaré avoir rêvé de devenir juge pour enfants. Aujourd'hui, votre combat, il peut s'associer au fait de garantir un avenir pour les générations à venir, donc pour les enfants. Est-ce qu'il y a un lien?
C'est vrai que moi, c'est surtout la question qui me fascinait dans la question de juge pour enfants, c'est deux choses. C'est d'abord les âmes grises, hein, Philippe Claudel, un écrivain que j'adore, qui parle de ça, c'est comment est-ce qu'en fait on voit que dans ce qu'on appelle la délinquance, il y a aussi une défaillance de l'État, il y a une défaillance structurelle. En tant que société, on a failli à protéger parfois des enfants à des parcours individuels, parcours intimes qui ont été broyés par une violence systémique, etc., qui ensuite peut se retrouver être exacerbée dans eux-mêmes qui répliquent cette violence. Donc la question du juge pour enfants, pour moi, c'est comment on brise cette chaîne, cette escalade de violence pour mieux protéger la société. Et donc quelque part, c'est sûr qu'il y a un lien intéressant de se dire, bah voilà, comment est-ce que là on brise ces chaînes de domination, ces chaînes de pouvoir qui écrasent, qui fait que on est toujours dans une logique où on prend des ressources, on les extrait petit accaparement pour quelques-uns. Donc quelque part, c'est comment est-ce qu'on brise des cercles vicieux. Donc en ça, en effet, il y a des liens.
Alors vous brisez ça, vous essayez en tous les cas de le faire avec, comme on le disait tout à l'heure, passion. Et justement, quelle est votre réponse lorsque vous expliquez, on vous demande de ne pas faire peur, de ne pas être alarmiste? C'est un peu le discours qu'on entend face à des engagements comme le vôtre.
Exactement, bah c'est tout à fait ce que j'ai dans mon livre, où j'explique ces passages où en fait, on reçoit sur des plateaux, dans des lieux, en disant bah, c'est génial, merci, mais bon, nous on est positif, on essaie de parler de solutions pour pas trop bousculer les gens. Ça m'a toujours interloquée parce que je me dis, mais imaginons, et puis ça arrive dans mille manières, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui savent beaucoup plus de choses que moi, qui pourraient mettre en danger mon corps, mon avenir, mon présent. Et donc, est-ce qu'à eux aussi, on leur demande de ne pas trop faire peur? C'est-à-dire que si je vais chez le médecin, que j'ai une maladie ou voilà, bah c'est pas forcément incurable, mais j'ai des moyens d'action concrets, il faut que j'agisse vite, voilà les offres qui se proposent à moi de guérison, j'ai pas envie que le médecin me dise, essaie de ne pas tout me dire pour pas me faire peur, essaie de me préserver une part de la réalité. J'ai envie qu'ils me disent ni plus ni moins ce qui m'arrive, quelles sont les options qui s'offrent à moi en termes de solutions concrètes d'action, et ensuite je choisis librement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc c'est précisément ça. Là, je prends l'exemple du corps, mais c'est aussi du corps social. J'ai envie qu'on nous dise, voilà la direction dans laquelle on est en train d'aller, elle nous amène ici. Maintenant, est-ce que collectivement, on a envie d'y aller ou pas? Ça, c'est une question qu'on doit se poser démocratiquement.
Alors justement, collectivement, vous faites un lien direct avec ma prochaine question. Quel est le bilan de votre combat à aujourd'hui? Estimez-vous avoir gagné des batailles, notamment face à, au gouvernement, quel qu'il soit, et aux grands groupes aussi?
Eh bien, les victoires sont toujours collectives, hein, et elles sont le fruit de combats d'avant. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que quand on voit les choses comme ça, on sort aussi quelque part d'une logique un peu productiviste où, avec nos KPI, hein, key investment measurement, l'idée de dire, il y a une action, il y a une réaction, et puis on peut le mesurer. Là, c'est un petit peu différent parce que on bouscule la société. Donc ça m'est arrivé plein de fois d'imaginer que c'était des échecs, de me faire, par exemple, huer au MEDEF devant les patrons, et puis d'avoir quelques mois, quelques années après, des patrons de grandes boîtes qui viennent me dire, bah, en fait, on a complètement bousculé. Ça a été parmi d'autres choses, à un moment donné où il s'est passé quelque chose en moi et où j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. À l'inverse, on a des victoires immenses et ça, j'en suis toujours très fière et heureuse. Mais c'est aussi parce que d'autres avaient commencé avant, parce qu'il y a des chercheurs qui, depuis des années, travaillent notamment sur les fonds marins. On a eu une très belle victoire. On devait avoir les bateaux qui partaient, en juillet,
Oui.
aller exploiter les fonds marins et on est en train de réussir. On avait zéro pays il y a 6 mois. On en a 13 maintenant. Donc, on commence à avoir une majorité de pays qui se positionnent en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Nous, on a réussi ça en un an, mais il y a des personnes qui travaillent depuis 30 ans dans ces négociations. Alors, certes, ils étaient deux, trois. Ils nous ont alertés. On a augmenté le chiffre. On est devenu massif. On a réussi à obtenir des victoires. Mais, voilà. C'est pour ça que je sors un peu de cette logique de qu'est-ce qu'une victoire, qu'est-ce qu'un échec. Je pense que qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas quelque chose, on infléchit le monde.
Vous avez pas mal voyagé avec votre caméra pour réaliser cette série Pourquoi on se bat. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus, toutes ces rencontres que vous avez pu faire lors de la réalisation de l'émission?
Bien sûr, évidemment. Comme je dis, je suis assez fascinée par des gens qui, je dois avoir une vision assez systémique de ce qui se passe, mais des gens qui peuvent avoir aussi des moments très précis, notamment la question des glaciers. Mais là, même plus précisément, on était avec des chercheurs qui travaillaient sur la même langue de glaciers depuis 30 ans. Et ils faisaient les mêmes mesures. Et en fait, c'est un savoir très concret, très précis. Ils nous avaient dit cette belle chose. Moi, je suis occupée à calculer tous ces chiffres-là. Le problème des scientifiques, c'est qu'une fois qu'on a compris quelque chose, qu'on sait, puisqu'on nous a toujours appris à chercher, une fois qu'on trouve, on s'arrête là. Et c'est le grand drame de beaucoup de scientifiques. C'est qu'on n'arrive pas à faire sortir ce qu'on trouve de notre labo. Et pour autant, si on avait, on a un autre climatologue qui s'appelle Peter Kalmus, californien, qui dit, mais si la population avait ne serait-ce que 10% de la connaissance qu'on a, mais tout le monde serait en train de paniquer. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de fuir une direction qui nous amène vers une condamnation. Donc, ça m'a, ouais, donné une responsabilité, j'ai encore plus grande de me dire, je peux avoir accès à ces chercheurs-là qui prennent un temps très précieux pour me donner une information. C'est une responsabilité que je ne vais pas prendre à la légère et je veux pouvoir la transmettre au mieux.
Alors justement, tout ça, vous avez pu le faire effectivement grâce au soutien de TV5 Monde. Ça représente quoi pour vous ce soutien?
Ben, c'était très important parce que déjà, on voulait que ce combat soit le plus accessible possible. Et donc, on a quand même pu avoir une plateforme gratuite, ce qui change tout. Et puis disponible sous-titré en plein de langues, qui dépendait pas de grands groupes de milliardaires. Donc, c'était rare et difficile de pouvoir porter un combat avec qui je suis, c'est-à-dire une activiste climatique, politique, où bah, évidemment ça effraie plus généralement le monde du divertissement. Et là, d'être capable d'avoir des chaînes qui nous disent bah, on vous suit parce que on pense que cette parole est importante, il faut qu'elle soit portée, ça change tout parce que ça nous permet de sortir de notre cercle. Et c'est exactement pour ça qu'on fait ce travail-là.
Et alors, quel est le message, si vous pouviez le synthétiser en une phrase, le message que vous souhaitez faire passer avec la série Pourquoi on se bat?
S'il y a un message peut-être que je voudrais faire passer, c'est que on n'attend plus que vous. Et c'est le retour qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire que on se montre vulnérable, on se montre vraiment, on se met à nu émotionnellement pour montrer les doutes qui nous traversent, la vulnérabilité qui nous traverse, le fait qu'on cherche toujours, mais qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de la certitude pour commencer à faire ce pas dans l'action. Et quand les gens sortent, c'est ce qu'ils nous disent. On est vulnérable, on est vulnérable avec vous, on se sent légitime finalement maintenant, et donc on y va, on s'organise collectivement.
Est-ce que vous avez des nouveaux projets à venir ensuite, après cette série?
Eh bien, je sors un livre le 19 mai aux éditions du Seuil, qui va un peu plus loin dans la réflexion politique, je dirais, qui s'appelle Pour un soulèvement écologique. Et ensuite, eh ben, on a envie de repartir aussi avec cette caméra, repartir dans l'action, se battre contre les bombes climatiques à l'autre bout du monde, en Ouganda, se battre contre l'exploitation minière des fonds marins. Avec ce film, ce qui est génial, c'est qu'on a pu en faire une plateforme Donc, ça s'appelle pourquoionsebat.com. C'est un site où justement on peut s'organiser collectivement pour pas laisser les gens seuls face à ça.
Donc, je rappelle le documentaire en 4 épisodes, Expédition Islande, Le silence des glaciers, Génération intranquille, Promesse de l'invisible, tout ça sous la main de maître de Camille. Et pour un soulèvement écologique, le livre à venir, pourquoionsebat.com, le site pour continuer. Donc, effectivement, on peut vous qualifier de militante, d'activiste pour la planète et notamment sur les océans. Est-ce que vous acceptez ce titre?
C'est un honneur.
Merci beaucoup, Camille.
Merci à vous. Merci beaucoup.